Rebonjour tout le monde. Donc effectivement, donc je suis sociologue et je travaille au Centre Alain Savary. Voilà, donc je vais vous parler de. Je pense qu'il y aura plusieurs éléments de concordance avec ce qu'on a entendu ce matin. Faire un état des lieux, une brève synthèse des résultats d'un travaux d'une recherche comparative que nous sommes en train d'essayer de terminer. C'est un petit peu difficile, qu'on a débuté il y a presque 3 ans maintenant, qui visait à faire une comparaison européenne des politiques d'éducation prioritaire ou l'équivalent donc dans 8 pays européens. Alors j'avais mis les... Voilà. Donc une enquête qui a été menée dans ces 8 pays, en Angleterre, Belgique, France, Grèce, Portugal, République tchèque, Roumanie et Suède. Alors, c'est une étude dont, d'abord, bon, mon propos est très lié à l'équipe de coordination de cette recherche, donc que j'anime avec Jean-Yves Rochex, que vous devez connaître, de l'Université Paris 8, Marc Demeus, qui est un collègue belge de l'Université de Montsenot, et David Grieger, qui est un collègue tchèque de l'Université Charles de Prague. Donc c'est une étude qui a été faite en réponse à un appel d'offres européen, Socrates, et le thème de cet appel d'offres était pour une meilleure évaluation des politiques éducatives adaptées aux besoins des groupes à risque. Alors je vais un petit peu développer, surtout cette notion de groupe à risque, mais en gros pour nous c'était une opportunité puisque ça fait longtemps quand même, bon, bien sûr on a travaillé sur les ZEP françaises, on les connaît, mais la question récurrente est de savoir que se passe-t-il ailleurs, dans d'autres pays européens. Est-ce qu'il y a des politiques un peu similaires et est-ce qu'on pourrait développer une analyse comparative d'une certaine manière pour mieux revenir aussi, enfin en tout cas nous c'était ça pour l'équipe française c'était ça l'enjeu, est-ce qu'on peut mieux revenir sur l'expérience française à partir de cette expérience étrangère, voilà. Alors bien sûr on savait déjà, on avait quelques éléments déjà sur les politiques les plus connues qui étaient celles américaine, nord-américaine évidemment, mais je vais un peu en reparler tout à l'heure puisque c'était les premières politiques de la sorte qui avaient été élaborées dès les années 60. Les politiques anglaises aussi qui sont un peu plus connues, mais par contre on avait vraiment du mal et on savait pas exactement ce qui se passait et quelles étaient les analyses qui se développaient en Europe par ailleurs. Voilà, donc cette étude a donné lieu à un premier ouvrage qui est là, donc qui visait à faire une synthèse déjà de la première partie du travail. Et puis nous essayons de terminer un second ouvrage qui développe un peu plus des analyses transversales, mais je vous en dirai quelques mots peut-être un petit peu tout à l'heure. Simplement, quelles étaient les attendues de la Commission européenne ? Je dirais il y en avait deux. D'abord, c'était comme pour nous une interrogation sur. Alors, le texte de l'appel d'offres citait les politiques de compensation. On appelait ça les politiques de compensation qui se sont mises en place à la suite des rapports célèbres qui étaient les rapports Plowden et Coleman aux États-Unis, en Angleterre. Et apparemment, on savait que des politiques de cette sorte s'étaient un peu installées un peu partout en Europe, mais sans grande analyse. Alors. Voilà. Mais en même temps, derrière cet appel d'offres, il y avait une préoccupation de la Commission européenne liée, évidemment, aux indicateurs statistiques qui montrent des taux très importants. On en a un petit peu parlé ce matin, surtout pour la France, mais c'est le cas pour toute l'Europe. Des taux très importants de sortie de l'école sans diplôme et sans qualification. Et peut-être une interrogation, mais c'est moi qui l'ai retraduit comme ça, entre d'un côté, vous savez, des objectifs de la politique éducative commune, les objectifs qui sont assez volontaristes pour l'économie de savoir, pour développer une société de la connaissance, etc. Et en même temps, ces résultats statistiques qui montrent toujours de fortes inégalités sociales face à l'école. Et donc il y avait une interrogation, je pense, de la part de la Commission européenne de susciter une synthèse et des travaux de réflexion sur les politiques spécifiques, comme ils les appellent, ou les dispositifs spécifiques qui visent a priori à lutter contre ces inégalités. Avec, il me semble, mais alors c'est, là aussi c'est moi qui retraduis un peu cette demande, il me semble... Dans ce texte d'appel d'offres, on retrouve des tensions, finalement, dans la manière même dont on pose le problème, et des tensions que l'on retrouve dans la plupart, j'ai envie de dire, des discours ou des réflexions qui portent sur l'éducation prioritaire. D'un côté, est toujours rappelé, il y a une reconnaissance du caractère non fataliste, on va dire, et non inéluctable de l'échec scolaire. Et ça, c'est rappelé très, très souvent, d'autant plus qu'on est face aujourd'hui à des courants de recherche. Peut-être on en dira un mot aussi tout à l'heure, en recherche de facteurs d'efficacité, sur l'obligation de réussite, des choses comme ça, qui insistent et qui font qui prennent acquis des résultats des recherches en sciences sociales, d'une certaine manière, qui prennent le fait qu'il n'y ait pas qu'il y a le caractère non fataliste de l'échec est toujours rappelé, et donc c'est assez surprenant finalement de voir que les statistiques sont toujours montrent toujours de fortes inégalités face à l'école, alors qu'a priori, en théorie et théoriquement, on est d'accord pour penser que ce n'est pas inéluctable et qu'on peut lutter contre cette chose-là. Alors, donc, d'un côté, il y a cette reconnaissance qui est posée dans la manière dont on pose le problème. Mais il y a aussi autre chose. On a l'impression que dans ces discours, et c'était le cas dans le discours de la Commission européenne et pas uniquement, il y a une quasi-nécessité qui est mise en avant du développement de politiques ciblées ou spécifiques. Alors, je vais insister sur ces points, puisque les PEP, je vais les appeler les PEP parce que ça va être plus facile, les politiques d'éducation prioritaire, sont des politiques ciblées qui ne s'adressent pas à tout le monde, donc qui ciblent certaines populations, certaines catégories de populations. Et on a l'impression que peu de discours vont jusqu'à remettre en question, par exemple, l'idée qu'il faut des politiques ciblées, et donc que ces politiques spécifiques ou ciblées sont toujours un petit peu présentées comme inévitables. Et d'une certaine manière, c'est assez logique, à partir du moment où on va parler des groupes à risque, cette catégorie-là qui est mise en avant, où on commence à raisonner avec des catégories de population comme ça, forcément, on va être obligé de poser plus ou moins la nécessité d'une politique spécifique pour ces enfants ainsi délimités d'une certaine manière. Et en même temps, troisième point dans le discours, c'est ce qui fait tension, il y a une certaine désillusion qui est toujours mise en avant. Alors là, je cite ce texte de l'appel d'offres là, qui nous a servi de point de départ. On ne constate toujours pas d'amélioration significative de la situation des plus défavorisés au niveau de l'ensemble des systèmes éducatifs, c'est-à-dire à la fois, donc je répète, il y a un caractère non fataliste de l'échec et des inégalités. Il nous faut développer des dispositifs spécifiques, mais on sait que ces dispositifs spécifiques, ils existent déjà depuis un certain nombre de temps, selon les pays. Et en même temps, il y a une certaine désillusion. Les résultats sont le plus souvent jugés décevants. D'ailleurs, cette catégorie décevant, elle revient dans plusieurs pays, qui fait que s'il peut y avoir des résultats ponctuels avec tel ou tel dispositif, globalement, sur l'ensemble des systèmes éducatifs, on ne voit pas vraiment d'amélioration de la situation des enfants les plus défavorisés face à l'école. Ça renvoie un peu au résultat que nous a présenté Françoise Devrard ce matin sur la France. Voilà. Donc il y a ces tensions-là. Et donc notre objet, nous, c'était, même si la demande était celle d'une évaluation, vous avez vu le terme qui était utilisé tout à l'heure, c'était d'élargir la notion même d'évaluation, et de ne pas la prendre uniquement en termes statistiques, parce que c'est assez compliqué. Et on s'est dit qu'il fallait avant tout déjà produire une synthèse, questionner les débats, questionner les savoirs sur ces politiques, les décrire leur fonctionnement, mais décrire aussi la manière dont elles s'argumentent, quels sont les problèmes qui sont posés, comment on découpe les populations cibles, comment on argumente la spécificité de l'activité pédagogique, des choses comme ça. Donc on a un peu élargi la notion d'évaluation, et finalement le projet a été accepté de cette manière-là. Et on a, si vous voulez, parce qu'on pensait surtout qu'il fallait avant tout réfléchir à la comparabilité de ces politiques. Avant même de se lancer dans une tentative d'évaluation très comparée, il fallait déjà s'entendre pour savoir de quoi on parle. Vous allez voir que c'est un peu compliqué selon les pays. Et surtout de lancer ou de poser les bases d'une comparabilité finalement internationale de ce type de politique. Voilà. Alors je dis juste en deux mots. L'étude, il y avait deux grands axes, donc elle a duré pratiquement 3 ans. Il y avait deux grands axes. Un premier axe où on a d'abord commencé par faire une synthèse descriptive et questionnante de ces politiques pays par pays, avec une grille commune d'interrogation et de description. Ça a donné lieu au premier ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis un deuxième axe qui est plus une analyse thématique transversale où on s'est posé un certain nombre de questions, on est en train d'essayer d'avancer là-dessus, sur des thématiques donc transversales, celles par exemple du ciblage, comment on cible ces enfants et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans l'analyse comparative sur ces questions de ciblage, la question pédagogique et curriculaire, c'est-à-dire comment sont argumentées et comment sont agies les actions pédagogiques dans ces PEP. Et puis des questions sur l'évaluation aussi, comment sont évaluées ou pas évaluées ces politiques et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Voilà. Donc deux axes d'études que l'on a essayé de mettre en avant. Alors évidemment, dans le cadre de cette intervention, je ne peux absolument pas résumer le tout de cette étude. Donc il y avait 8 pays, une trentaine de chercheurs, de différentes générations d'ailleurs, et évidemment ça a produit finalement beaucoup d'éléments. Donc j'ai choisi vraiment d'insister sur un des éléments qui est peut-être l'un des résultats le plus global, on va dire, hein, qui a surgi déjà dès le premier ouvrage et sur lequel on est en train de retravailler, et qui nous montre finalement, alors que... c'est une comparaison européenne, mais en même temps, on perçoit une nette évolution de ce que sont les politiques d'éducation prioritaire dans le temps, dans l'histoire, dans le temps. Et dans, cette évolution est observable dans chacun des pays, même si c'est pas une évolution linéaire, c'est pas un schéma évolutionniste, vous verrez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui veut dire qu'on a pu mettre en avant ce que l'on appelait trois âges ou modèles des PEP, hein, qui traversent un peu chaque pays. Alors, trois âges, j'insiste sur les deux, j'ai mis les deux, trois âges et modèles. Trois âges parce que ce sont des définitions et de ces politiques qui sont nées sans doute historiquement depuis les années 60. Hein, le temps n'est pas très long, mais et en même temps, ce sont des modèles parce qu'il est clair que ces âges ou ces modèles aujourd'hui se complexifient et se mêlent dans chaque pays, hein, pour donner une réalité complexe et assez hétérogène finalement. Hein. Ces politiques sont hétérogènes dans tous les pays, les finalités de ces politiques sont hétérogènes et elles se mêlent d'une manière ou d'une autre. Alors mon argument, c'est donc, je vais reprendre un petit peu ces trois âges, évidemment, enfin développer un petit peu cette analyse-là. Avec cette idée, il me semble que finalement cette transformation, cette évolution des politiques d'éducation prioritaire contribue, bon évidemment s'explique en grande partie, ou participe d'une transformation plus globale des politiques éducatives et scolaires dans leur ensemble, qui sont en grand mouvement depuis longtemps. Mais en même temps, notre idée, mais bon, c'est une hypothèse de travail, et on peut y revenir, c'est que la transformation des politiques d'éducation prioritaire elle-même ne s'explique pas que par la transformation des politiques scolaires dans son ensemble, mais participe et contribue, est un élément fort de la réorientation, finalement, de la politique scolaire et éducative dans son ensemble. Et en même temps, je rajoute un point qui est l'objet de cette évolution... Et cette complexité liée à l'hétérogénéité est pour une grande part, j'ai envie de dire, implicite. Hein, et elle est peu débattue. Hein, donc c'est un des points sur lesquels nous aboutissons, c'est la nécessité d'un débat. Notamment parce que, évidemment, ce sont des politiques qui sont pensées par des politiques, comme tout le monde, mais l'évolution ne joue pas que au niveau de l'argumentation officielle, mais elle joue aussi, elle met en jeu la manière dont on cible les élèves, par exemple, donc des travaux d'expertise aussi sur le ciblage, la manière dont on veut conduire l'action pédagogique ou curriculaire, la manière dont on argumente les problèmes sur lesquels ces politiques, que ces politiques essaient de résoudre, etc., etc. Donc il y a une évolution importante. On pense que cette évolution est d'autant plus importante qu'elle, finalement, elle participe de la transformation de la scolarité dans son ensemble. Vous savez, la périphérie questionne le centre, d'une certaine manière, même si un des problèmes, c'est justement peut-être que la périphérie questionne de moins en moins officiellement le centre, et pour nous, c'est un problème. Mais de la périphérie, on va vers le centre. Donc, et en même temps, cette évolution est très implicite, peu débattue, et c'est là-dessus, peut-être qu'on pourra mener la réflexion. Alors, juste un petit détail avant de rentrer dans les trois âges, quand même. Au départ, on a été évidemment obligé de définir ces politiques. Et là, je vous avoue que ça a été très difficile dès le départ. Je me souviens de la première réunion avec nos partenaires qui avait eu lieu d'ailleurs ici même. Tous nos partenaires européens étaient venus. Et on s'est vite aperçu que sous le terme de politique d'éducation prioritaire, on n'entendait pas du tout la même chose. Donc on a essayé d'élaborer une première définition, mais une définition qui n'avait pas d'autre ambition que nous mettre au travail tous. Hein. C'est une définition qui pouvait être révisée par la suite, mais qui essayait de, un peu de stabiliser le questionnement. Donc cela a donné ça, et après un bon temps de travail, on va dire. Donc des politiques qui visent à agir sur un désavantage scolaire, on a conservé cette notion de désavantage scolaire, à travers des dispositifs ou des programmes d'action ciblés, donc ça c'est important, des politiques ciblées, mais ce ciblage, il peut être opéré de différentes manières, c'est des critères socio-économiques, ethniques, linguistiques, voire religieux, territoriaux ou scolaires, en proposant de donner aux populations ainsi déterminées quelque chose de plus, selon la formule consacrée, mais aussi de mieux ou de différence, qui est un petit peu aussi autre chose. Alors, je vais passer sur les détails, mais simplement pour vous rendre compte de la difficulté, la notion même d'éducation prioritaire n'est pas partagée par tous les pays. Hein. Elle est utilisée évidemment en France, en Belgique aussi. Elle avait été utilisée en Angleterre, mais elle a été abandonnée. Dans certains cas, au Portugal, elle a été utilisée au Portugal, mais dans certains cas, on a affaire un petit peu à ce qu'on appelle un concept parapluie, c'est-à-dire sous la notion d'éducation prioritaire, il peut y avoir une multitude de dispositifs spécifiques. C'est le cas aujourd'hui en Angleterre. Et ça n'a rien à voir, ou c'est assez différent, que que l'on connaît en France, quand on parle d'éducation prioritaire, on sait de quoi on parle. C'est un dispositif assez clairement délimité, aujourd'hui avec les RAR et les ARS aussi, une entité politico-administrative bien, bien précise. Mais ce n'est pas le cas forcément dans tous les pays. Donc ça, c'était un premier problème. Alors bien sûr, il y a d'autres notions très proches, politique de compensation, discrimination positive, des choses comme ça qui peuvent être mises en avant. Et puis aussi, un autre problème dès la définition, et ça c'est un problème, au début c'était un problème méthodologique, mais on s'est aperçu que ce n'était pas qu'un problème méthodologique, c'était un problème important, c'est que les découpages de ces politiques sont aussi différents. Je vous donne un petit exemple. Dès le départ, quand nous travaillions sur cette étude, notamment avec nos collègues belges, francophones, nous ne voulions pas étudier l'éducation spécialisée ou le domaine du handicap. Hein. Pour nous, éducation prioritaire, j'imagine pour vous aussi, tout ce qui aurait été de l'ordre de l'espace scolaire du handicap étaient deux choses très différentes. Et donc, c'est pour ça que dans les catégories de ciblage, on n'avait pas mis le handicap. Mais simplement, pour des collègues, pour d'autres collègues de d'autres pays, au contraire, eux n'arrivaient pas à dissocier ce qui serait de l'ordre de ce que nous appelons éducation prioritaire, plutôt lié à la question des inégalités sociales à l'école, et ce qui serait de l'ordre du handicap. Et en fait, donc cette question au départ c'était un peu curieux, mais on s'est rendu compte que ces pays, c'est le cas de l'Angleterre aujourd'hui, la République tchèque par exemple, la Roumanie, ils sont un peu plus que nous, et beaucoup plus que nous même, en phase avec ce que l'on appelle aujourd'hui l'inclusive education, ou l'éducation inclusive, qui utilise de nouvelles catégories, nouvelles entre guillemets, vous allez voir que c'est pas si nouveau ça, notamment ceux des besoins spécifiques, special educational needs, sous ces labels-là, on redistribue totalement l'ordre des politiques scolaires, médicales, de santé, sociales, etc. Et il se trouve qu'en fait, ce nouveau découpage, c'est justement ce troisième âge des PEP que l'on a mis en avant et qui touche d'une certaine manière un petit peu tous les pays. Donc, si vous voulez, dès le problème de la définition, on avait des problèmes pour s'entendre et on s'est rendu compte que ces problèmes de définition sont relatifs au fait qu'on est face à un monde très mouvant hein, et qu'on redécoupe des frontières entre les politiques scolaires, médicales, sociales, de santé aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors, un bref aperçu quand même des PEP, donc les politiques d'éducation prioritaire dans les 8 pays. En Angleterre, c'est là, pour l'Europe, où la politique la plus ancienne a été connue. C'était les EPA, Education Priority Areas, qui avait été mise en place en 1967, qui a pas duré très longtemps, mais qui a été remplacée. En 1998, deux programmes un peu plus importants, qui sont les Education Action Zone et puis EIC, Excellence in Cities. Et aujourd'hui, c'est le pays, sans doute, où il y a le plus de fragmentation, c'est-à-dire on voit une pluralité de programmes, de dispositifs, de taille tout à fait inégale, qui rentrent tout à fait dans la définition de l'éducation prioritaire que l'on s'est donnée. Donc une réalité très complexe plurielle. France, évidemment, les EP en 1981-82. La Belgique, qui a adopté aussi, un peu plus tard, en 89, une politique du même nom, zone d'éducation prioritaire, mais qui l'a transformée par la suite en D+, c'est-à-dire discrimination positive, aujourd'hui, qui est en place en Belgique. Et de même, en France, bon, évidemment, les RAR, etc. D'une manière générale, vous le verrez, je commence à le dire pour l'Angleterre et la France, ces politiques sont extrêmement mouvantes, ça change sans arrêt, il y a des réformes continuellement qui changent ces politiques dans tous les pays, et je pense que c'est un point sur lequel il faut qu'on s'arrête aussi, qu'on se pose la question de savoir pourquoi il y a autant de mouvements et de redéfinition de ces politiques. Portugal, beaucoup plus tard aussi, fin 90, alors je vous épargnerai mon accent portugais, on va le traduire par les territoires éducatifs d'intervention prioritaire, hein, donc qui ont été mis en place donc beaucoup plus tardivement, et je vais y revenir aussi, et qui n'ont tenu finalement que 4 ans, un peu sur le modèle quand même, pas mal sur le modèle des EP françaises, et qui ont été changés, réformés, dans un nouveau dispositif qui s'appelle toujours les TEIP, donc, hein, mais deux, et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les premières, en tout cas qui nous font retrouver les deuxième et troisième âges des PEP dont on va parler. Et puis d'autres dispositifs, style les curricula alternatifs, etc. En Grèce, c'est assez particulier, puisqu'il y a deux types de dispositifs très différents. Certains qui sont organisés directement par le ministère, mis en place par le ministère, et d'autres qui sont soutenus par des expérimentations universitaires. Hein. Et la philosophie de ces deux types de politiques est assez différente. On trouve ici des notions vraiment de soutien scolaire assez peut-être classiques, et des programmes adaptés aux enfants d'immigrés, aux enfants roms. Il y a des enfants roms en Grèce. Et c'est le seul pays d'ailleurs aussi où les minorités, c'est le seul pays où on a vu une politique ciblée sur un critère religieux. Il y a un dispositif pour les enfants de la minorité musulmane de Thrace, et que nos collègues partenaires considèrent comme rentrant, participant aussi de la définition d'éducation prioritaire que l'on a donnée. République tchèque et Roumanie, je les ai mis ensemble, mais c'est deux réalités assez différentes quand même. Il y a beaucoup de questionnements, vous le savez sans doute, sur évidemment des ciblages sur des minorités ethniques et nationales ou linguistiques, et des questions autour des publics des enfants roms, mais qui sont traités de manière assez différente entre la République tchèque et la Roumanie d'une certaine manière. Et enfin, en Suède, un pays très décentralisé, où là, nos collègues partenaires ont travaillé sur deux politiques. Alors, c'est traduit du suédois, donc ça donne pas grand-chose en français, ça fait un peu bizarre, mais donc un dispositif qui vise les enfants affectés par la ségrégation. Nos collègues suédois nous disaient qu'il y avait bien de la ségrégation aussi en Suède, la société du bien-être, où il y a des quartiers un peu ghettoifiés aussi. Voilà. Et puis, une filière, un autre dispositif assez particulier qui s'appelle la filière individuelle. Alors, la filière individuelle, je crois que c'est le seul cas qu'on a eu d'ailleurs dans tout le pays. Il se trouve que pour passer du système primaire au système secondaire en Suède, il y a des tests d'évaluation qui, jusqu'à maintenant, il y a quelques années, je crois que c'est en train de changer, évaluaient les enfants sur trois disciplines. C'était le suédois, les maths et, je pense, une seconde langue. Voilà. Et en fait, tous les enfants qui ne réussissaient pas ces tests ne pouvaient pas rentrer dans le secondaire et étaient pris en charge par la filière individuelle. Voilà. Donc la filière individuelle cible les enfants sur les non-résultats aux tests d'évaluation en question. Il se trouve que cette filière a été très très critiquée en Suède, puisqu'elle est assez visiblement ségrégative et remise en question d'une certaine manière. Alors, je vous dis, donc, évidemment, des comparaisons, une comparaison européenne, et en même temps, des histoires et des évolutions dans chacun de ces pays, à l'intérieur de chacun de ces pays, des évolutions historiques un petit peu fortes. Alors, je vais reprendre ces trois âges, donc, pour essayer de réfléchir ensemble à cette évolution. Alors, le premier âge, c'est évidemment ce qu'on a appelé les politiques de compensation, qui sont les politiques les plus connues. Donc, en relève les fameuses politiques anglaises, Education Priority Areas, les ZEP françaises d'une certaine manière, et surtout les premières politiques, donc qu'on appelait les politiques de compensation pour les enfants défavorisés, qui sont nées dans les années 60 aux États-Unis, dans le cadre de la guerre contre la pauvreté, vous savez, qui avait été déclarée par les présidents Johnson et Kennedy au début des années 60. Et c'était un programme déjà immense, un programme très très important, avec une multitude de dispositifs sur tout le territoire nord-américain, assez surprenant, quoi. Ce premier âge est lié à une forme, un contexte économique, social et politique particulier, puisqu'on peut dire que ces politiques sont nées dans des pays du type un peu welfare state ou état-providence, d'après-guerre, si ce n'est un enthousiasme, du moins un optimisme quant à la possibilité de démocratisation des pays et de redistribution des chances entre tous les publics qui est présent. Ce sont aussi des politiques qui sont nées directement dans le prolongement de l'instauration de ce qu'on appelait des comprehensive schools. En France, le collège unique, c'est-à-dire un système scolaire qui vise à remettre en question les systèmes un peu élitistes antérieurs, ce qu'on a observé en France, ce qu'on a observé en Angleterre et dans d'autres pays aussi, et donc une installation d'une école unique ou d'une comprehensive school à la même époque. Et d'une certaine manière, il nous semble que les premières politiques, donc les politiques de compensation, sont un peu un achèvement de ce modèle de la comprehensive school. On dit achèvement en deux sens. Achèvement d'abord parce que le débat, la décision d'instituer des écoles uniques est prise, et ça a été parfois très très long. Je vous rappelle qu'en France, tout 4e, 5e République, le débat a été extrêmement important, et ça ne s'est pas fait comme ça. C'est le cas aussi dans d'autres pays, on l'a vu aussi en République tchèque, il y a eu toujours des oppositions fortes à la construction même d'un établissement, d'un système scolaire unique. Donc à la fois, le débat s'est achevé, Et en même temps, on se rend compte que ces écoles uniques n'ont pas permis de démocratiser suffisamment les systèmes d'enseignement. Et le thème de l'échec scolaire, des inégalités d'apprentissage, évidemment, arrive à ces époques-là. Et il s'agit de faire autre chose, finalement, pour résoudre ces problèmes. D'où les premières politiques de compensation, hein, qui ont cette finalité. Il s'agit de lutter contre les inégalités scolaires liées aux inégalités sociales, en complément de l'unification des systèmes d'enseignement, qui visiblement ne semble pas suffire, en tout cas, pour viser cette égalité. Ce qu'on voit à cette époque aussi, à partir des années 60-70, c'est de nouveaux problèmes de pauvreté, une polarisation socio-économique importante, hein, évidemment, qui participe de l'argumentation de l'institution de ces politiques, hein, qui sont là. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que non seulement de nouvelles formes peut-être de pauvreté, mais aussi une répartition, et on en a parlé ce matin encore, évidemment, une répartition sur le territoire avec des quartiers, des logiques de ségrégation déjà qui se mettent en place, ou en tout cas des polarisations sur l'espace social de ces pauvretés économiques et sociales. Et d'une manière ou d'une autre, les premières politiques, donc les politiques de compensation, sont des politiques territorialisées, clairement, hein, qui visent à accorder des moyens supplémentaires ou de mobiliser des ressources professionnelles, financières, locales, pédagogiques, pour lutter contre les inégalités scolaires dans les territoires urbains, donc où se concentrent le plus les difficultés économiques et sociales. Et il nous semblait aussi qu'on voyait une certaine cohérence entre la manière même, les modes de ciblage de ces politiques qui visaient principalement des publics, qui définissaient principalement ces publics en termes socio-économiques, hein, ou socio-culturels, et une approche, une réflexion un petit, de nature un peu sociologique sur le problème des inégalités sociales à l'école qui est mise en place. Cela dit, c'est important de le rappeler parce que vous verrez qu'on va rebondir là-dessus aujourd'hui. Ces premières politiques, donc les politiques de compensation, ont aussi été l'objet de critiques, hein, de fortes critiques même, et de questionnements et de critiques, notamment par des sociologues, hein, dès cette époque-là. Alors je vous ai mis quelques référents, mais par exemple, il y a eu une synthèse importante de toutes les politiques américaines qui a été faite par deux autres, pour l'OCDE, par deux auteurs qui s'appellent Little and Smith, qui relève déjà l'imprécision et l'hétérogénéité des finalités des actions de scolarisation pour les pauvres. Il y a plusieurs finalités, on ne sait plus trop où on en est, et il y a déjà un premier regard critique sur ces politiques dès les années 70. Mais surtout, aussi bien en France qu'en Angleterre, la critique s'élève en pointant, si vous voulez, une tension entre ce que l'on va appeler compensation et démocratisation. Alors, je m'explique. La plupart de ces politiques de compensation s'argumentent au nom d'une théorie un peu déficitariste que vous connaissez, la théorie du handicap socioculturel, une théorie déficitariste qui, d'une certaine manière, a tendance à expliquer l'échec scolaire ou les inégalités sociales face à l'école en renvoyant ces difficultés, la causalité de ces difficultés sur le monde familial et en expliquant ces inégalités par une pauvreté culturelle ou qui serait celle des familles ou un environnement qui ne permettrait pas assez aux enfants d'apprendre. Bon, ce discours-là, ces théories du handicap socioculturel, vous les connaissez sans doute. Elles sont toujours aujourd'hui très très dominantes, d'ailleurs. Et un certain nombre de chercheurs se sont élevés contre ces théories qui sont de certaine manière assez misérabilistes et qui ne tiennent pas compte de ce que finalement les systèmes scolaires font des différences sociales, hein, et c'était ça un petit peu qui était mis au centre des critiques. Bref, vous avez aussi bien des auteurs donc comme Viviane Zimmer-Jamati en France, qui avait fait une synthèse des politiques américaines, qui nous parle de politiques paternalistes et réductrices, le terme est fort, hein, la critique était vive quand même, et puis surtout Basil Bernstein, sociologue britannique, qui lui a fait une des critiques, je pense, la plus pertinente de ces politiques, qui nous dit que finalement les politiques de compensation contribuent à détourner l'attention de l'organisation interne de l'école, détourner l'attention de la manière dont on conduit les apprentissages, dont on organise les savoirs à devoir transmettre, et détourner l'attention de la sélectivité sociale finalement qui traverse l'école, pour faire comme si le problème ne venait que d'ailleurs, et on va faire des politiques ciblées qui vont s'occuper de ces questions-là. Du coup, chez Bernstein, comme chez Vianney Bergamati, il y a une tension entre démocratisation et compensation, c'est-à-dire si on met en œuvre des politiques de compensation, d'une certaine manière, c'est un frein à la démocratisation du système d'enseignement qui commence à cette époque-là, mais qui n'est pas terminée et qui n'est pas finie, puisque ça empêche de penser la transformation du système scolaire dans son ensemble, un système scolaire qui devrait être capable d'accueillir tous les élèves et de faire réussir tous les élèves. D'accord ? Il y a aussi d'autres critiques de ces politiques, je vais passer vite, mais surtout aux États-Unis, il me semble, des critiques un peu de nature communautaire aux États-Unis, ou notamment pour du côté de la communauté afro-américaine qui essayait d'impulser des établissements scolaires plutôt contrôlés par la communauté ou au moins des écoles communautaires, si vous voulez, avec un peu cette argumentation de dire nous ne sommes pas des handicapés sociaux et culturels, nous avons une spécificité et une différence, et ça va être le thème de la diversité dont on a parlé ce matin et sur lequel on va revenir, qui se met en œuvre. Et donc il y a une critique des politiques de compensation et des théories du handicap socioculturel, mais qui se développe au nom d'une différence et d'une diversité qui se met en place. Et puis surtout, un autre mouvement critique très fort, qui celui-là va avoir beaucoup d'impact, je pense, qui est plutôt du côté de la réforme des standards et des travaux sur l'efficacité de l'école. C'est le cas aux États-Unis et en Angleterre, où finalement on reproche à ces politiques de compensation de ne pas être efficaces. Et si elles ne sont pas efficaces, on a l'impression que l'accent est mis beaucoup sur un petit peu sur les enseignants et sur les établissements locaux, qui finalement ne permettraient pas assez. Le projet en lui-même serait bien, mais localement ça ne suivrait pas. Hein, et donc des travaux sur l'efficacité des établissements scolaires, sur la professionnalisation, des choses comme ça qui se mettent en place et qui visent à inverser l'ordre des problèmes. Aussi bien tout à l'heure, on a l'impression que les théories déficitaristes, que tous les problèmes viennent de l'extérieur des établissements et que la cause est là, aussi bien on va avoir un autre mouvement de recherche qui va avoir tendance à autonomiser les questions de la production des inégalités et à en faire porter la responsabilité beaucoup plus sur les établissements et les pratiques enseignantes. Alors, là aussi, donc j'arrête là pour le premier âge. Simplement, ce modèle de compensation donc est valable pour évidemment l'Angleterre, la France, la Belgique aussi d'une certaine manière, la Suède un petit peu en partie, mais c'est sûr que dans nos autres pays sur lesquels on a travaillé, ces autres pays sont arrivés plus tard à ce type de politique, hein, et du coup nous montrent des choses un petit peu différentes. Par exemple, la Grèce et le Portugal, deux pays qui ont été marqués par une dictature militaire très forte, hein, donc ils sont sortis en même temps, hein, en 1974, la même année, et des dictatures militaires, notamment au Portugal, qui ont beaucoup freiné la scolarisation globalement dans ce pays-là. Ce qui veut dire qu'à la fin des années 80, les collègues portugais le disent comme ça, de cette manière, le pays est en retard par rapport au taux de scolarisation globaux. Hein, voilà. Et il nous semble que ces deux pays, aussi bien donc la Grèce que le Portugal, sont un peu dans une situation très particulière, dans la mesure où ils ont eu à la fois, en même temps, à gérer à la fois l'égalité d'accès pour tous à l'école et les inégalités de réussite, alors que dans des pays comme la France ou l'Angleterre, les questions se sont posées simultanément. D'abord, tout le monde accède à l'école, et puis après, on lutte contre les inégalités, si vous voulez. Or là, du coup, ça s'est fait en même temps. Et du coup, il y a quand même aussi un paradoxe, enfin, c'est la question en tout cas que je me pose, pour le Portugal, donc, qui a mis en place sa première politique à la fin des années 80, en 1990, par là. On a l'impression que le Portugal a pris la solution des ZEP françaises, mais en même temps qu'elle a pris la solution des ZEP françaises, elle a pris aussi la manière dont on pose le problème, hein, puisqu'on peut se dire le Portugal est en train de construire son système scolaire pour tous, il pourrait tirer bénéfice des erreurs qui ont eu lieu ailleurs et d'entrée de jeu essayer de construire un système plus démocratisant pour tout le monde. Eh bien, on s'aperçoit que ce pays a importé la solution, hein, qui avait été créée ailleurs, et en même temps il a aussi d'une certaine manière importé le problème ou la manière dont on pose le problème des inégalités. Et quant aux deux autres pays, République tchèque et Roumanie, évidemment, ce sont des pays qui ont été marqués par la période communiste très forte, dont ils sont sortis aussi en 89, par là. Et dans ces pays, Là aussi, on voit, ce sont des pays qui aujourd'hui ont sans doute une certaine défiance vis-à-vis de l'État central, on va dire, on peut comprendre pourquoi, et qui ont eu tendance à remettre radicalement en cause toutes les structures antérieures, en particulier le système scolaire antérieur, et qui ont aussi tendance à avoir un jugement assez négatif sur l'idée même d'une égalisation, d'une égalité ou d'une égalisation qui peut être assimilée à un égalitarisme un peu totalitaire ou uniformisant. Du coup, dans ces deux pays, République tchèque et Roumanie, les problématiques les plus importantes s'abordent surtout en termes de liberté, hein, liberté des individus, liberté des familles, reconnaissance de la diversité et des spécificités individuelles. Et on a l'impression que quand on parle de démocratisation en République tchèque ou en Roumanie, comme sans doute dans d'autres pays de l'Est ou centrale, ou d'Europe centrale, on pense plus à réduction, à démocratisation en termes de liberté qu'en termes d'égalité, hein, tel qu'on aurait pu le penser un petit peu ici. Deuxième âge, donc, il se trouve que les critiques sociologiques des politiques de compensation ont mis en avant, il me semble, une possibilité. Ce ne sont pas que des critiques dénonciatives, mais qui ont mis en avant la possibilité de poursuivre la démocratisation des systèmes d'enseignement en travaillant sur les curriculums, sur les pratiques pédagogiques, sur les logiques sélectives qui travaillent les systèmes scolaires d'une manière ou d'une autre. Mais ces recherches, on peut participer ou on peut être utilisé en tout cas pour dans une visée d'amélioration un peu des politiques de compensation qui étaient en place. Et ce que l'on perçoit, c'est qu'à partir des années 80 à peu près, il y a eu un glissement de sens, hein, une nouvelle définition, un nouvel âge des PEP qui plutôt semble beaucoup plus fortement mis en avant. Et ce nouvel âge viserait plutôt un objectif qui est celui de la lutte contre l'exclusion en lieu et place de la lutte contre les inégalités, ce qui n'est pas tout à fait les mêmes choses. Alors, lutte contre l'exclusion, exclusion scolaire, évidemment, d'où le problème des sorties du système scolaire sans diplôme, hein, la déscolarisation, le décrochage scolaire, les sorties sans diplôme ou sans qualification, toutes ces thématiques-là en France qui se sont développées dans les années 90, je crois, très fort. C'est aussi la mise en avant des problèmes de violence à l'école, dont Anne Armand parlait ce matin aussi, décrochage scolaire, violence à l'école, c'est des problèmes économiques d'insertion aussi, des thématiques un peu qui arrivent à cette époque-là. Et d'ailleurs, l'utilisation de la catégorie des groupes à risque, hein, qui est utilisée par la Commission européenne, est très liée à ce mouvement de lutte contre l'exclusion, puisque les groupes à risque, vous savez, c'est une catégorie qui vient de l'épidémiologie, qui a priori n'est pas du tout utilisée dans le monde éducatif, c'est une catégorie qui est utilisée pour le cas des travaux sur la toxicomanie ou sur la délinquance ou des choses comme ça, mais que l'on utilise désormais pour les politiques éducatives. Alors, ce glissement, on le voit très clairement en Angleterre, enfin, dans trois pays, on le voit vraiment en Angleterre, en France et au Portugal, mais en Angleterre, c'est là où c'est sans doute le plus explicite, avec les gouvernements du néo-travailliste, vous savez, sous les politiques de Tony Blair, où à la fois ces gouvernements ont développé des politiques spécifiques, et en même temps, ils se sont posé la question de savoir si le cadre de la lutte contre les inégalités était toujours un cadre adéquat pour penser ces problèmes éducatifs. La position la plus élaborée, qui a d'ailleurs été aussi théorisée par un sociologue qui était très proche du pouvoir politique, qui est Anthony Giddens, hein, en Angleterre, qui a été justement le mot d'ordre de développer une inclusion sociale, hein, de lutter contre l'exclusion sociale et de développer une inclusion sociale, où ce que l'on voit, c'est que il s'agirait plus tant de produire une société égalitaire en tant que telle, mais plutôt une société dans laquelle tous les citoyens ont un accès garanti à un niveau minimum de biens sociaux, hein, revenus, opportunités, santé, etc., et se sentent eux-mêmes inclus dans une entreprise collective commune, si vous voulez. C'est un petit peu ce référent. Et l'exclusion sociale, nous disent-ils, se produit quand les gens se heurtent à des barrières leur bloquant l'accès à ces biens sociaux, le chômage, le manque de revenus, une mauvaise santé, des services médiocres qui sont multiples et qui se concentrent, qui peuvent produire des concentrations d'exclusion au sein de groupes particuliers ou dans des zones particulières. Bref, vraiment, le référent central de la politique devient cette lutte contre l'exclusion et plus vraiment la production d'une société plus égalitaire par l'école. D'une certaine manière, c'est ce qu'on a aussi observé en France. En tout cas, les analyses ont mis ça en avant dans le cadre, vous savez, des deux relances, des deux premières relances de DESEP, notamment, je crois, la seconde, 98, où ces relances qui ont étendu de manière importante le nombre de ZEP, tout en s'approchant sensiblement au départ des politiques de la ville ou de la politique de développement social des quartiers au départ, et après 1990 par la politique de la ville. Et en affichant un peu une volonté de couplage systématique entre la politique scolaire éducative et la politique de la ville. Et c'est pourquoi, dès cette époque-là, si vous vous en souvenez, il y a eu de multiples observateurs ont pointé un risque de dépendance de la politique scolaire par rapport à la politique de la ville, voire même, parfois, pour certains, d'instrumentalisation de la politique ZEP par la politique de la ville et des glissements de sens vers une logique qui serait moins celle de lutte contre les inégalités que celle de gestion sociale des inégalités. Hein, voilà, ça a été des critiques qui ont été portées, en tout cas, sur ces relances des ZEP dès l'époque. Et que l'on peut tout à fait rapprocher de ce qui s'est passé en Angleterre, même si en Angleterre, c'était plus explicitement, on va dire, théorisé. De même au Portugal, les premiers TUEP visent la lutte contre les inégalités sociales à l'école. Et les secondes TUEP, qui ont été mises en place, je vous dis, 4 ans plus tard, donc c'est-à-dire 95, 96, 97, par là, où on a concentré les efforts sur certains établissements de deux villes, simplement Lisbonne et Porto, des établissements sensibles, liés à des problèmes de violence. Là aussi, les TUEP 2 ont l'air de se recentrer sur ces questions de violence plus que sur des questions d'apprentissage ou d'inégalité d'apprentissage, et ce qui fait dire à nos collègues portugais aussi que ce renversement, ce deuxième âge, s'est mis en place aussi au Portugal de la même manière. Alors évidemment, ce mouvement s'accompagne aussi d'un discours en termes d'équité et pour la mise en place des socles minimaux de compétences et de savoir, qui n'est pas qu'une réalité française, mais évidemment européenne, je cite une phrase de François Dubé, que vous devez connaître, qui se préoccupe un peu plus du sort des vaincus de la compétition scolaire, c'est ce que nous dit Dubé en tout cas, cette conception même des socles, en conclusion, on y reviendra quand même, hein, même si on en a un peu parlé ce matin, participe tout à fait de cet objectif de lutte contre l'exclusion. On se préoccupe du sort des vaincus, c'est-à-dire le fait est que jusqu'à maintenant, on peut sortir de l'école, on ne sait pas quels sont les savoirs garantis par l'école. Pour François Dubé comme pour d'autres qui théorisent aussi ces questions-là, il est tout à fait inadmissible et on ne peut pas avoir une école juste tant qu'on ne se préoccupe pas du sort de ceux qui sont vaincus, qui sont en échec, enfin qui ne sont pas en réussite dans la compétition scolaire. Alors évidemment, ça pose question, ça pose problème, puisque du passage de la lutte contre les inégalités à la lutte contre l'exclusion, il y a un vrai mouvement qui s'opère, et le risque, je le pointe comme un risque, mais on peut y réfléchir, ça serait d'une certaine manière qu'on ne se préoccupe plus de l'égalisation des apprentissages, et si ce n'est même que cette question sorte du domaine du pensable et de la réflexion analytique. Il s'agit de faire quelque chose pour le sort des vaincus, qui a un minimum de savoir garanti, mais ce qui fait que ces personnes-là sont vaincues dans la compétition, ça pourrait sortir éventuellement du domaine du pensable et de l'analyse, et donc on pourrait aussi interrompre la recherche de solutions visant à mieux démocratiser le système d'enseignement en ce sens-là. Alors le débat est un peu plus complexe et compliqué, mais enfin, il pose ces questions-là. Et en tout cas, ce que l'on observe, ça c'est sûr, c'est que la compétition, elle s'accroît entre-temps, dans les années 90-2000, extrêmement forte. Et voilà. Alors, y aurait-il un troisième âge ? Il y aurait-il un troisième âge ? Il me semble qu'on observe les prémices d'un troisième âge des PEP, donc, qui a l'air de développer autour de ce référent, éventuellement, peu en France, mais beaucoup plus ailleurs, de l'inclusive education, donc de l'éducation inclusive. Et d'une certaine manière, les questions que pose ce troisième âge sont un petit peu les mêmes que celles posées par le second, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une fragmentation. Enfin, l'une des particularités de ce troisième âge, c'est ce qui s'observe aujourd'hui dans plusieurs pays, qui est une multiplication très importante des dispositifs, de type PEP, hein, de taille plus ou moins plus ou moins inégale, et donc une multiplication aussi des catégorisations des publics scolaires. C'est-à-dire on fragmente de plus en plus la population scolaire en micro-catégories de population qui devraient bénéficier de dispositifs un peu spécifiques. Alors je vais vous prendre des exemples parce que pour que ça concrétise un petit peu, dans deux pays pourtant très différents que sont l'Angleterre et la République tchèque, hein, c'est les deux exemples qu'on prend de manière exprès, parce que politiquement, évidemment, ces deux pays n'ont pas eu la même histoire. Et puis l'Angleterre a été un des premiers pays qui a institué donc, les politiques de compensation, alors que la République tchèque y est venue beaucoup plus tardivement. On voit une liste de dispositifs très très importantes et de catégorisation des publics aussi très importantes. Alors, je vous lis pour l'Angleterre, donc c'est ce qu'on trouve dans les documents officiels. Hein. Vous avez évidemment des politiques qui ciblent très classiquement les enfants selon les catégories socio-économiques, voilà, mais aussi selon des élèves de milieux de milieux défavorisés, mais de minorités nationales, linguistiques, culturelles ou ethniques. Hein. Et puis vous avez par exemple les enfants de réfugiés ou demandeurs d'asile, donc c'est une catégorie, et donc des actions ou des dispositifs scolaires pour cette catégorie-là. Les enfants originaires de telles communautés ou courants migratoires qui peuvent être ciblés en tant que tels, d'accord ? Les enfants malades présentant des troubles de l'apprentissage ou du comportement ou ayant des besoins éducatifs spéciaux, mais je vais revenir sur cette notion. Selon le sexe des élèves, on en parlait un petit peu ce matin, garçons ou filles, c'est-à-dire on peut avoir, c'est très rare, mais ça arrive, des dispositifs qui ciblent selon le sexe des élèves. Les lycéennes enceintes, vous savez, il y a un problème social à un moment donné en Angleterre sur le problème des lycéennes enceintes, donc il peut y avoir des actions spécifiques qui se mettent en place. Voire même, alors ça c'est une catégorie, tout élève en risque de désintérêt et d'exclusion, ça, vous avez une catégorie de tout élève en risque de désintérêt et d'exclusion. Alors, on avait même vu, ça nous avait fait rire, et puis, ça nous permettait de réfléchir à ça aussi, des dispositifs qui ciblent les élèves dont les parents sont stressés. Donc, on a aussi... Voilà, il y a le problème social des élèves qui sont victimes de leurs parents stressés, on va dire. Voilà. On a eu aussi, et ça nous a vraiment surpris, mais du coup on y attache de l'importance, les gifted and talented pupils, vous savez, je sais plus le dire en français, les élèves doués ou talentueux, qui, alors là c'est très étonnant, parce que dans certains de nos pays, nos collègues mettent ces dispositifs-là au titre de l'éducation prioritaire. Donc effectivement, ça nous a un petit peu surpris, mais c'est aussi un mode de ciblage. Bref. Un éclatement, donc une multitude, et je vous assure qu'en Angleterre, c'est très très large, de dispositifs spécialisés. Et une fragmentation de la population scolaire. Alors, j'ai mis, y compris en France, parce que du coup, cette réalité complexe nous a questionnés. Nous qui avons notre découpage de l'éducation prioritaire très très clair, très labellisé, on s'est rendu compte que finalement, mais il y a quand même d'autres choses. Il y a évidemment les dispositifs pour les ENAF, vous savez, les enfants nouvellement arrivés en France. Il y a toujours eu l'aide et l'intégration scolaire, l'éducation spécialisée avec son histoire mouvementée, qui est un changement permanent. Des dispositifs un peu hybrides comme les SECPA, qui sont pas de l'ordre du handicap, mais qui sont un peu autre chose, etc. Des dispositifs en marge de l'éducation nationale ou en lien avec la politique de la ville, je pense au PRE notamment, au programme de réussite éducative, les classes et les dispositifs relais, voilà. Tous ces dispositifs-là, que vous connaissez, nous, en tant que chercheurs français au départ, on voulait pas du tout les penser dans l'éducation prioritaire, mais du coup, l'interrogation européenne nous a permis de changer de regard, de complexifier notre regard, puisqu'on s'est rendu compte que ces dispositifs ciblent des publics qui, ailleurs, sont pensés à l'intérieur d'ensemble de politiques d'éducation prioritaire, alors que nous, on les pense de manière un petit peu séparée. D'accord ? Alors, les transformations les plus fortes dans cette troisième âge, ce sont des transformations qui concernent donc les modes de ciblage. Bon, j'ai pas tellement le temps de vous parler de l'action curriculaire et pédagogique, parce que là aussi, il y a des transformations. Alors évidemment, ce qui serait le plus facile à dire, et c'est ce qui se dit en général, c'est que la transformation la plus forte nous fait passer d'un ciblage de type territorialisé à un ciblage de population. Mais en fait, c'est pas... Alors, c'est ce que... Il y a eu un ouvrage allemand d'Onslow sur la politique nord-américaine, comment les politiques nord-américaines, les politiques de la ville sont passées d'un ciblage sur les territoires à un ciblage sur des populations. Et on peut dire ça aussi de la France, etc. Mais en fait, il me semble que c'est un peu plus compliqué. Sans doute, le ciblage territorial perd de vitesse, mais en fait, il se redéfinit, son sens se redéfinit, et c'est plutôt ça que l'on observe. Par exemple, au Portugal, les premières TIEP, donc territorialisées, s'argumentaient au nom d'une logique un peu d'empowerment, c'est-à-dire de développement d'une démocratie locale, finalement. Une mobilisation locale d'un quartier autour d'un établissement scolaire, avec l'idée de participation, de démocratie locale très, très forte, de participation des parents, etc. Et petit à petit, la transformation s'est faite dans le sens d'un ciblage de zones difficiles. Alors déjà, on ne dit pas exactement la même chose quand on parle d'un quartier avec une démocratie locale ou une zone difficile. Et un certain nombre de partenariats ou d'institutions partenaires qui vont un peu plus travailler, enfin, j'ai envie de dire, pour accentuer, sur les parents, plutôt qu'avec eux. De même, en Angleterre, ce qu'on voit en Angleterre très fort, c'est ce qu'on appelle les principes du multi-agency working, c'est-à-dire des espaces, des territoires particuliers, où une multitude d'institutions, de partenaires du monde de la santé, de l'action sociale, vont travailler en partenariat, donc autour ou avec un établissement scolaire, et un petit peu plus sur des parents, on va dire, qu'avec eux. Et surtout, d'ailleurs, autour de dispositifs pour la préscolarisation, qui sont des préoccupations très fortes dans la plupart des pays européens. C'est différent en France, dans la mesure où on a une école maternelle qui est très développée. Par exemple, on a le programme anglais dit Sure Start, assurer un bon départ, des ciblages de la petite enfance avec plusieurs partenariats, santé, médicaux, social, etc., qui agissent sur un espace particulier. Donc, critères territoriaux, oui, mais qui changent de sens. De même, ce qu'on voit aussi, s'il y a des ciblages sur des populations, il y a de multiples manières de cibler des populations, des publics, on peut pas tout développer, mais par exemple, ce qui apparaît, donc ça, là aussi on va rebondir sur ce que l'on disait ce matin, c'est pour ça que j'ai bien entendu ce que disait Normand, et je suis tout à fait d'accord avec son questionnement, mais pour autant, avec une vision comparative internationale, on peut peut-être un peu poser les questions différemment. On voit un peu moins de poids accordé aux critères socio-économiques et beaucoup plus les questions des minorités ethniques, linguistiques ou culturelles qui sont mises en avant autour du thème de la diversité. Je vous donne un exemple. En Suède, nos collègues suédois nous disent que depuis 15 ans, il n'y a plus du tout de lecture en termes de classe sociale, c'est sûr, mais aussi de lecture en termes de différences socio-économiques, aussi bien du point de vue des discours officiels politiques que du point de vue des chercheurs qui ne questionnent plus que les problèmes dits de ségrégation ethnique tels quels. Or, évidemment, quand vous regardez quelles sont ces populations ou ces minorités qui sont ciblées, elles sont toutes pauvres économiquement, et quand elles sont pas pauvres, elles sont justement pas ciblées par les dispositifs. C'est les minorités finnoises, c'est les minorités de je sais plus quel autre pays qui sont des milieux très favorisés étrangers, mais très favorisés et qui ne sont pas pris en compte dans les programmes en Suède. Donc quand même, il y a cette dynamique de la diversité qui est très 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 mise en avant. La France est peut-être un peu particulière là-dedans, mais ce que l'on disait ce matin, il faut voir qu'il y a le contraire opposé qui se pose d'une autre manière ailleurs. Enfin, il y a l'extension, j'ai envie de dire l'extension du spécifique, puisqu'il y a cette catégorie, d'une certaine manière, cette fragmentation dont je vous parle là, elle renvoie à une grosse catégorie qui est celle des besoins spécifiques, donc besoins spécifiques ou particuliers. Alors là aussi, qui est peut-être peu utilisée en France, elle l'est, mais pas aussi fortement que dans d'autres pays. Et cette catégorie, il y a un certain nombre de paradoxes. Alors, il se trouve qu'on a fait un travail un peu de généalogie de cette catégorie. Je peux juste vous en dire deux mots. Mais les besoins spécifiques, c'est une catégorie qui est née en Angleterre. Je crois que c'est au début des années 70, par le rapport Warnock, qui est un rapport officiel, en 1978, en Angleterre. Et cette catégorie était faite, au départ, au nom de l'inclusive éducation, justement, de manière à éviter les filières de ségrégation des enfants handicapés. C'est-à-dire, c'est vraiment un débat sur le handicap à l'école. Et pour éviter des filières ségrégées, le rapport Warnock propose de mettre entre parenthèses les catégories médicales et de considérer que des problèmes pédagogiques, finalement, hein, et d'appeler besoins spécifiques un ensemble d'enfants, de repenser différemment le problème d'un ensemble d'enfants qui ne serait plus uniquement perçu comme atteint de problèmes médicaux, mais aussi de problèmes pédagogiques collectifs. Donc il y a eu tout un débat en Angleterre dès la fin des années 70 sur cette question-là et sur le scandale un peu de filières ségrégatives pour les enfants handicapés. Mais avec l'idée aussi, je crois que je l'ai mis, ouais, le rapport Warnock, de rompre avec ce que l'on peut appeler le modèle individuel déficitaire du handicap et de la différence, c'est-à-dire de penser que les problèmes ne viennent pas que de l'enfant qui aurait un handicap en lui-même, mais que le handicap c'est relationnel, hein, c'est un rapport à un système scolaire aussi, et qu'il s'agit d'agir sur le système scolaire dans son ensemble et pas uniquement sur l'enfant lui-même. Le seul problème c'est que, visiblement, ça c'était l'idée de départ, mais qu'en Angleterre, cette idée s'est très mal appliquée, pas du tout, et petit à petit, on est rentré dans des logiques d'intégration où finalement, la société anglaise ou britannique s'est mise à poser la question de savoir si certains individus pourraient être intégrés, d'autres non, et on s'en est tenu finalement à ce modèle individuel déficitaire du handicap et de la différence qui n'a pas bougé tel quel. La catégorie des besoins spécifiques s'est pourtant étendue énormément avec des travaux de l'OCDE assez précis, hein, qui ont élaboré une nomenclature des besoins spécifiques qui est encore en cours d'élaboration à ce jour, hein, on vous parle. Et ce que l'on voit, c'est que sous les besoins spécifiques, on voit trois grosses sous-catégories qui sont les enfants handicapés ou atteints de troubles médicaux, les enfants de milieux sociaux défavorisés ou populaires ou autres, et puis les enfants en difficulté, on ne sait pas, pédagogique, mais qui serait un peu autre chose. Bref, on fait une nomenclature énorme de tout un ensemble d'enfants qui auparavant pouvaient être pris en charge par des institutions spécialisées et qui du coup se retrouvent dans un ensemble très générique des besoins spécifiques. Et dans cette extension, évidemment, la catégorie, le problème initial du rapport Warnock a un peu disparu. Alors, j'arrive là-dessus et je vais... qu'est-ce qu'on nous disait exactement dans le rapport Warnock enfin, en tout cas, dans ce débat anglais, c'est pas que le rapport Warnock. En anglais, il y a une distinction qui s'opère entre les deux termes de intégration et inclusion. Alors, c'est pas exactement le même sens en français, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, intégration, vous imaginez, on a un système scolaire, un espace. Intégration, on va intégrer quelqu'un dans cet espace-là, d'une certaine manière. Et donc, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'il est bien intégrable ou est-ce qu'il est... Bon. L'inclusion, c'est pas du tout le même sens. L'inclusion, c'est de dire, on va construire un espace scolaire accessible à tous, hein, qui doit accueillir tous les enfants, toute une diversité d'enfants d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que derrière le mot d'ordre d'une inclusion, au départ, il y a la nécessité de changer les pratiques des établissements scolaires, de transformer le curriculum et de transformer les établissements scolaires en communautés ouvertes, accessibles à tous. Et ce que nous montrent notamment les chercheurs qui travaillent sur cette question, je pense à Felicity Armstrong, qui est une collègue anglaise, et en France, des gens comme Éric Plaisance ou d'autres, c'est que finalement, l'idée d'inclusion n'a pas tenu, et qu'on s'en tient toujours, d'une manière ou d'une autre, à une logique d'intégration. En même temps, dans ces débats-là, alors dans le débat anglais et puis dans le débat international, alors, l'inclusive éducation, vous verrez maintenant, c'est utilisé. L'autre fois, vous regardez sur le site de l'UNESCO aussi, c'est un grand portail sur l'inclusive éducation, où il y avait toutes les catégories, les enfants soldats, les enfants travailleurs, etc., qui sont mis dans les besoins spécifiques qui se développent. Or, ce que l'on voit aussi, c'est que dans ces débats, il y a un certain nombre d'ambiguïtés, il y a des termes qui, d'après moi, sont pas clairs et pas stabilisés. Et c'est pour ça que je réagis aussi un peu à ce qui s'est dit ce matin, hein, sur cette question-là, puisqu'on était, je pense, au centre du problème. Notamment les termes de différence et de diversité, qui sont toujours... Quand on dit il faut qu'on construise une communauté ouverte à la diversité, il faut que l'établissement scolaire se préoccupe de la diversité, etc. Or, ces notions peuvent être utilisées de différentes manières, hein. La diversité, qu'est-ce que c'est que cette diversité, cette différence? Bon, à la limite, on peut se dire, la diversité, c'est la singularité. Finalement, on est tous singuliers, il y a une singularité individuelle. et qui est le propre d'une humanité, etc. Et donc, dans ce cas-là, l'enjeu est d'ouvrir l'espace scolaire à toute cette diversité, cette singularité, et d'ouvrir notamment les enfants, même de milieux populaires ou autres, à des savoirs qu'ils n'ont pas l'habitude d'apprendre dans leur milieu social familial, et on les ouvre à ces apprentissages divers. Mais la diversité, c'est peut-être aussi la différence, et là, la différence, c'est quand même une autre notion. En général, la différence, vous savez, dans nos sociétés, c'est l'étranger, le fou, qui ont toujours été considérés comme les différents par essence, et le gros problème de, si vous reprenez les travaux de Foucault là-dessus, c'est très clair, de toutes nos sociétés, ça a toujours été de trouver une place, d'accorder une place aux différents, c'est-à-dire aux fous ou aux étrangers. Et c'est pas exactement le même problème que celui de la diversité individuelle. Enfin, la différence, ça peut être aussi, on le voit très clairement dans certains débats, une espèce de une capacité individuelle qu'auraient les individus très essentialisés. On aurait des capacités de naissance, d'une manière ou d'une autre, et d'un individu à l'autre, ces capacités sont pas les mêmes. Et il me semble que quand on parle de différence diversité, on pointe aussi ces questions-là. De même, cette notion de besoin, elle est quand même pas très claire. Et le problème, c'est que dans ces débats, c'est jamais explicité. Alors, besoin, est-ce que c'est un besoin de l'individu, un besoin de la société? Qui définit les besoins? Bon, ce sont des questions sur lesquelles on pourrait un petit peu revenir. Alors, je termine petit à petit. Par ailleurs, ce que l'on voit, donc dans la lignée de ce troisième âge des PEP, c'est que beaucoup de discours qui se tiennent dans nos différents pays sont de plus en plus, très essentialistes, c'est-à-dire des discours qui reposent sur des diversités justement individuelles. On n'arrête pas de parler de diversité des talents, diversité des rimes d'acquisition. Et vous savez, on parle souvent des enfants rapides ou des enfants lents, alors qu'en fait ils sont pas rapides ou lents. Certains ont commencé leur apprentissage plus ou moins tôt, mais c'est pas une question de rapidité ou de vitesse en soi. Donc il y a un certain nombre de catégories très essentialistes, diversité des talents, des aspirations, des motivations, des capacités, qui reviennent beaucoup dans le discours. Alors ces discours essentialistes, ils sont pas nouveaux, on les connaît depuis très longtemps. Je vous rappelle que en 1964, Bourdieu et Passeron dénonçaient l'idéologie des dons dans Les Héritiers. Voilà. Mais peut-être ce qui est nouveau, il me semble, dans les débats, c'est que ce discours essentialiste s'accompagne pour beaucoup d'une critique, d'une récupération finalement peut-être de la critique sociologique, d'une critique du commun collectif. J'ai envie de dire public aussi, mais on peut le rajouter en plus. C'est-à-dire, c'est comme si un système scolaire collectif, commun, serait forcément normalisateur, aplanirait les différences, les diversités, et empêcherait finalement aux individus de s'épanouir dans l'espace collectif. Et ça, la critique du collectif qui serait que normalisateur, c'est empli dans nos débats sociaux sans arrêt, avec la question que l'on peut poser, évidemment, est-ce que le collectif commun est forcément normalisateur, ou est-ce qu'on peut pas imaginer un collectif qui permet aux individus de se construire dans ce collectif sur leur spécificité? Alors, par exemple, ce débat-là, on le voit très fortement dans les discours sur les gifted and talented pupils, les fameux enfants doués ou intellectuels précoces, où il y a toujours le discours qui arrive, qui met en avant, oui, mais ils peuvent pas être, on peut pas donner la même chose à tout le monde, il faut l'école est normalisante, il faut absolument distinguer, différencier, etc., etc. Bref, s'il y a une nouveauté dans le discours, peut-être, c'est pas simplement le discours essentialiste des élèves sur les dons, mais ça s'accompagne. Ça récupère aussi la critique, qui était la critique de Gilles Dédon dans les années 60, qui dénonce sans arrêt du collectif. Et à ce nom-là, on n'arrête pas de différencier, de diversifier de plus en plus l'espace scolaire. Alors, quelle est la finalité de ce troisième âge des PEP? Bon, c'est les questions que l'on pose, mais il nous semble justement, notamment Jean-Yves Rochex insiste beaucoup là-dessus, qu'on a l'impression que le mot d'ordre aujourd'hui, enfin, l'enjeu, ça serait plus tellement de lutter contre les inégalités scolaires liées aux inégalités sociales, mais plutôt de faire en sorte que les dispositifs scolaires, on ne pourrait plus que les construire comme une maximisation des différences ou des capacités individuelles qui seraient déjà là. Donc l'objectif est une maximisation des capacités dont on pense d'une manière ou d'une autre qu'elles sont là déjà chez les élèves. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on retrouve des catégorisations de public si disparates qui fonctionnent un petit peu dans la même logique. Donc, si c'est le cas, donc, on sort sans doute d'une logique de compensation, pour le coup, hein, d'où l'ambiguïté et des ambiguïtés dont on parlait au début de la compensation, mais pour autant, il me semble que ça pourrait peut-être presque remettre en question l'idée même d'école, hein, qui est un lieu de non seulement de maximisation des capacités individuelles, mais de développement des capacités et de production de nouvelles capacités des individus qui naissent dans nos sociétés actuelles et de construction de culture commune, évidemment, qui est en jeu là-dedans. Donc l'idée même d'école liée à la culture écrite, mais on pourra y revenir dans nos débats si vous voulez tout à l'heure, et au développement des savoirs et des compétences, à la transmission des savoirs et des compétences pour développer des compétences et des savoirs, pourrait être remise en question dans cette pensée qui se développe d'une certaine manière. Alors j'avais rajouté en conclusion, mais comme on me demande de faire attention à la pendule, je vais aller très vite. J'avais rajouté quelques petits éléments sur la France, parce qu'on en a peu parlé, enfin, c'est pris dans l'ensemble global, mais on le voit bien quand même. Il y a des questions, ce sont des questions à poser sur les transformations en France, mais on peut se dire qu'en France, depuis quelques années, on assiste aussi à une visée concurrentielle et visée minimale, c'est-à-dire, d'un côté, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a ce mouvement pour l'accès aux meilleurs établissements, aux CPGE, alors, au nom, là, pour le coup, d'une discrimination positive, qui n'est pas le même sens hein, que la compensation, hein, ou d'un élitisme républicain. Et il me semble que ce qui se joue dans ce dispositif-là, moi je pense, il s'agirait de dire on va chercher les meilleurs élèves de milieux populaires ou de rares ou d'éducation prioritaire pour leur permettre d'accéder à des filières plus prestigieuses. Ça veut dire, d'une certaine manière aussi, qu'on estime ou on pourrait risquer de figer l'idée que dans ces établissements-là, on ne pourrait pas apprendre tout à fait normalement. Bref, il y a un peu une vision, mais je crois que c'est François Zavra qui avait utilisé cette notion-là lors des débats qu'on avait eus au comité scientifique du Centre Savary dernièrement. Peut-être une vision un peu mortifère du territoire, c'est-à-dire on sort de ciblage territorial avec l'idée il faut absolument en sortir, hein, parce que dans ce territoire-là, on ne pourrait pas se développer amplement. Ce qui est une autre idée que celle de dire on va développer le territoire pour éviter qu'il y ait des espaces de non-droit ou des espaces trop différents, etc. Et en même temps, le socle pour les autres, le socle commun minimum de compétences et de savoir. Alors évidemment, le socle, c'est compliqué à penser, à réfléchir. De quoi s'agit-il? On peut se dire, est-ce que c'est un viatique, un kit de survie, ou est-ce que c'est une propédeutique, comme le dirait Claude Lelièvre, avec la visée d'une culture commune, hein, c'est pas exactement la même chose, et on pourrait réfléchir à ça. Et puis un dernier élément que je soumets à la discussion, et j'arrête là après. Évidemment, j'en ai peu parlé, mais la question de l'individualisation est très présente partout dans les modalités d'action dans l'éducation prioritaire. En Suède, c'est extrême, hein, une individualisation très forte qui va jusqu'à laisser la charge aux élèves eux-mêmes de choisir les disciplines qu'ils vont apprendre, quoi. Pour nos collègues suédois, c'est une suite logique d'une décentralisation extrêmement forte qui va jusqu'à l'élève, finalement. Vous savez, on décentralise, c'est jusqu'à l'élève qui choisit son curricula, etc. Et on peut poser des questions sur les enjeux de l'individualisation, on l'a fait déjà ce matin, en rapport à cette question de besoin, de commun, de collectif, etc. Et puis aussi, il y a des nouveaux référents en France qui arrivent, comme celui de la réussite éducative. Hein, je pensais au programme de réussite éducative. Évidemment, réussite éducative, ce n'est pas le même terme que réussite scolaire. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ce que l'on voit aussi, c'est que de plus en plus, là aussi, on a un redécoupage des politiques éducatives, scolaires, de santé, sociales, qui est en marche, et qui peut être intéressant, mais qu'il faut un petit peu réfléchir aussi. Avec les dispositifs type les PRE, donc les programmes de réussite éducative. Et vraiment, je termine là-dessus. Ce que je vois et ce qu'on entend, c'est que d'un côté, ces dispositifs, peut-être, ils remettent en question l'idée, la critique qu'on a pu faire aux ZEP, comme à d'autres, c'était que ces politiques n'étaient pas assez territorialisées, finalement. Hein. Et donc, on veut ouvrir un peu plus des partenariats sur des territoires. Mais en même temps, dans ce jeu du partenariat, il y a des acteurs professionnels de différents milieux qui viennent agir ensemble, et on a l'impression que l'argument scolaire tend un peu à disparaître hein, de la logique éducative ou sociale globale qui se met en place. À tel point, et j'en ai fait l'expérience dernièrement, je discutais, je présentais aussi les travaux européens PEP concepts, un espace plutôt de personnes très impliquées dans les politiques de la ville, hein, et des travailleurs sociaux et des responsables de politique de la ville, où on a l'impression que dès qu'on parle de l'école, il y a une critique qui arrive de suite, c'est celle du scolarocentrisme, hein, c'est-à-dire dire quel est le rapport entre l'école et l'éducatif et la santé, le social, etc. C'est comme s'il y avait un reflux de pensée qu'il y a un enjeu scolaire un peu spécifique et qui se noie un peu dans des dynamiques d'intervention locales et partenariales multiples qui posent de nouvelles questions. Voilà, je m'arrête là et désolé si j'ai pris un peu trop de temps. Merci.